Bonjour à toutes, bonjour à tous. Délivrez-vous une chronique littéraire et nous allons aujourd'hui parler d'une écrivaine oubliée. Après la célèbre Colette et la moins célèbre Nina Berberova, je vais vous parler aujourd'hui d'une écrivaine ayant vécu elle aussi dans le sud Yvelines, bien oubliée maintenant, mais qui pourtant connut une certaine notoriété et de beaux succès de librairie dans la première moitié du XXe siècle. Marcel Tiner naît à Tulle le 8 octobre 1870 sous le nom de Marguerite Chasteau, dans une famille d'érudits et d'artistes. Son père est dessinateur d'art. Sa mère, institutrice, écrit des romans et des traités pédagogiques. Sa grand-mère est poète. Marguerite publie à 14 ans son premier roman, Vive les vacances, et à 17, son second, L'enfant gaulois. Comme bon nombre d'artistes femmes, écrivaines, peintres ou sculptrices, en cette deuxième moitié d'un siècle dominé par les hommes, elle choisit un pseudonyme masculin, Charles Marcel. Une quarantaine d'autres romans suivront sous le nom de Marcel Le Tiner, du nom de son mari, le graveur sur bois Julien Tiner, épousé en 1889. Ils auront 4 enfants. Sous le titre « La révolte d'Ève », Marcel Tiner publie dès 1898 et jusque dans les années 30 des chroniques dans La Fronde, le premier journal féministe. Ses romans abordent aussi des sujets féministes. Pas trop du goût de cette fin du 19e siècle. Les relations extra-conjugales, les femmes journalistes et artistes, les filles mères, l'avortement et le viol de la nuit de noces. Elle est parue en 1899 et couronnée par l'Académie française. En 1916, 110 000 exemplaires de ce livre auront été vendus. Extrait lu par Véronique Elena Malvoisin.
« Je ne prétends pas que tu fasses un sacrifice, reprit mon oncle. Je souhaite au contraire que tu accomplisses ta destinée. Toutes les femmes ne sont point nées pour les soins du ménage. De même qu'il y a des hommes de génie, il y a des femmes élues par la nature pour s'appareiller à eux. Rarement, ils se rencontrent. Ils s'attendent, s'espèrent, se cherchent toujours et de déception en déception, ils traînent jusqu'à la mort leurs désirs et leurs nostalgies. Mais quelquefois, passant l'un près de l'autre, ils se devinent, ils se reconnaissent, amants prédestinés, ils s'unissent et la beauté de leur amour demeure comme un exemple aux hommes. Crois-moi, Ellie, un mariage vulgaire, pourvu qu'il réunisse ce que le monde appelle les conditions de bonheur, c'est-à-dire la fortune, la beauté, les titres, pourra t'offrir quelque appât. Garde-toi de te prendre à ce piège. Ce serait trahir à l'avance ton légitime possesseur. »
La Maison du Péché, parue en 1902, connaîtra un grand succès en librairie et jusqu'à 40 éditions. Le roman affiche une claire position anticléricale. Dans l'extrait que va lire Véronique Elena, vous reconnaîtrez peut-être Montfort-l'Amaury, que les Tiner connaissent bien, puisqu'ils ont eu un temps une résidence au Ménul, d'abord à la Tourotière, en face du château, puis rue du Moulin, avant d'acquérir une maison à Gros-Rouvre, dans le hameau du Chêne Rogneux, une maison dite des Tiner du Haut, pour la différencier de celle des Tiner du Bas, située aux 4 rues du Buisson, habitée par son beau-frère, le peintre Louis Tiner. Extrait.
Ce logis patrimonial des Chanteprie, bâti sur l'extrême bord d'un plateau, domine la pente rapide où s'étage Hautfort-le-Vieux. À droite, le donjon couronne de ses tours ruinées la masse verdoyante du jardin municipal. La porte Bordier, autre fragment de la forteresse, enjambe la rue qui descend à pic vers la place de l'église et l'hôpital du comte Godefroy. Ce cintre de pierre moussue découpe un morceau de paysage. Toits enchevêtrés, pavés disjoints, fond bleuâtre, précis comme un dessin d'Albert Dürer. À mi-côte, Saint-Jean de Hautfort élève un portail Renaissance, un vaisseau soutenu par des arcs-boutants gothiques, un clocher restauré au XVIIe siècle. Entre les arcades de briques d'un petit cloître, les chapelles et les cyprès du cimetière apparaissent à vol d'oiseau. Ça et là, parmi les groupes de maisons, on devine les coudes, les lacets des rues, les petites places plantées de tilleuls en charmille.
En 1904, Marcel Tiner est une des cofondatrices avec d'autres écrivaines du prix Vie Heureuse, qui deviendra le prix Femina, créé contre le prix Goncourt, jugé misogyne. En effet, la première femme à obtenir le Goncourt sera Elsa Triolet en 1944, soit 41 ans après la création du prix. En 1905, le roman La Rebelle aborde le thème de l'avortement et de la liberté des femmes. Véronique Elena en lit la première page.
La pluie et le soleil brillaient ensemble sur les ardoises grises du Sénat. Rue de Médicis, l'asphalte miroitait. Les arbres nus secouaient des gouttes cristallines. Une vitre au dernier étage d'une maison s'alluma. L'averse, inégale et fraîche dans le crépuscule d'argent, était déjà printanière. Josanne, brune, svelte et vive, avec sa robe de drap noir, sa toque noire, sa cravate de tulle blanc, semblait la première hirondelle de ce printemps qui allait venir. Elle tenait sa jupe de la main gauche et de la main droite son parapluie ouvert. L'étoffe souple, tirée, tendue de côté, moulait la jolie taille et les jolies hanches. Le volant du jupon, en taffetas plissé, découvrait les minces bottines. Toute la personne de Josanne avait un air de hardiesse défensive, la libre allure qui révèle la fille émancipée ou la femme sans époux, seule dans la rue, seule dans la vie. Pourtant, les yeux de Josanne, le sourire de Josanne sous la voilette était triste et tendre, un peu languissant. L'amour avait touché ses yeux et ce sourire. Un jeune homme qui flânait tourna la tête.
« Gentil, oh, gentil !»
Un monsieur mûr suivit la passante. Il parlait d'un petit dîner...
« Chez Fouillot, d'une soirée à l'Odéon. »
Puis il expliqua ses convoitises. Josanne, sans fureur, répondit « Imbécile !» Le jeune homme s'en alla content. L'homme mûr s'en alla vexé. Josanne gagna les arcades de l'Odéon. Il pleuvait encore et soudain, un bec de gaz allumé, jaune et clignotant, attrista le crépuscule. 6 heures. Un enfant blond et bouclé, pareil à l'amour en guenille, offrit les violettes de son panier.
« Mademoiselle, fleurissez-vous !»
Josanne, de ses doigts gantés, mania les bouquets ronds couchés sur la fougère humide. Des feuilles de lierre, dures et veinées, comme ciselées dans le fer, formaient une étoile sombre à 5 pointes autour des violettes pâles.
« C'est de la part, mademoiselle, et c'est 3 sous !»
Josanne donna les 3 sous, choisit un bouquet. Elle fermait les paupières en respirant le parfum, et elle songeait « Tout le monde m'appelle mademoiselle ce soir !» Et moi-même, je me sens très jeune. Pourquoi ? Elle savait bien pourquoi. Et ses yeux d'un bleu plus foncé que les violettes s'émurent devant l'image évoquée. Maurice, elle attendait son amant.
Marcel Tiner séjourne souvent en Auvergne, berceau de sa famille et de celle de son mari. Elle y contribue en 1908 à la fondation du journal La Veillée d'Auvergne. Sa passion pour le journalisme s'exprime aussi lors de ses voyages, Italie, Tunisie, Grèce, Turquie, d'où elle rapporte articles et romans. En avril 1916, elle est envoyée en mission officielle par le service de propagande à Salonique, la Thessalonique actuelle. Elle y séjourne 4 mois, près du front d'Orient, méconnu. L'historiale de la Grande Guerre de Péronne conserve des lettres adressées à ses parents et à son fils Noël, dans lesquelles, selon le réseau des maisons d'écrivains et des patrimoines littéraires des Hauts-de-France, elle relate son existence de missionnaire, investie dans son devoir de rendre compte de la très belle œuvre que la France accomplit, mais plus portée sur son rôle de consolatrice auprès des enfants serbes et des réfugiés grecs. De cette escapade estivale, la romancière avouera à ses proches qu'elle savoura le devoir de beaucoup apprendre, mais aussi combien elle lui procura un grand bonheur, celui de retrouver son amant et de vivre une liberté bien revendiquée. En 1923, elle est en Turquie, peu après la prise du pouvoir par Mustafa Kemal.
« Je vous assure bien que je ne désire pas voyager en avion. Ils ont supprimé le voyage. » Que voit-on d'un avion ? Rien ou presque. Des nuages, des plans en relief.
En 1908 éclate l'affaire Tiner, qui sera relayée dans une 100aine d'articles de presse. L'écrivaine annonce qu'elle refuse la Légion d'honneur qui lui est destinée, considérant ne pas se reconnaître dans la liste des récipiendaires. Sa position lui fait subir de nombreuses attaques misogynes. Son nom ne paraîtra pas dans la liste définitive des récipiendaires. Sa nomination dans l'ordre n'aura donc jamais été ratifiée. En 1915, elle publie « La veillée des armes, le départ, août 1914 ». Un témoignage pris sur le vif de l'atmosphère régnant à Paris après la mobilisation d'août 14. Dans la préface de la réédition de 2015 aux éditions des Femmes Antoinette Fouque, Alain Kella-Villéger écrit « C'est l'histoire qui tient en 48 heures, du 31 juillet au 2 août 1914, c'est-à-dire de la mobilisation générale au premier départ. Une rue, un monde, le quartier Saint-Lazare. Ici comme en province, la vie est étroite, économe et bornée, écrit-elle. Une chronique sociologique intimiste, peut-être un reportage plus qu'un roman. En tout cas, un récit volontairement sobre pour dire le moment d'un basculement majeur avec la couleur vraie et le son juste. Et Marcel Tiner écrit elle-même
« Mes amis, je vous offre ce livre, miroir où se reflètent les aspects familiers et les aspects héroïques d'un Paris qu'on ne reverra plus. » Ensemble, pendant les journées qui précédèrent la mobilisation, nous avons regardé l'ombre de la guerre monter au ciel pacifique, et plus noir, d'heure en heure, s'étendre sur notre pays.
De son vivant, elle est traduite en anglais, en allemand, en suédois, en russe. Le grand écrivain James Joyce loue les qualités de son roman La Maison du Péché. Ses prises de position contre les révolutions communistes dans les années 20 lui attirent les foudres des milieux intellectuels parisiens de gauche et contribuent à mettre un terme à sa reconnaissance littéraire, même si elle continue à publier romans et articles. De 1941 à 1944, elle publie, mais dans des journaux clairement collaborateurs, Voix française ou L'Illustration. Dans un entretien accordé en 1922, elle déclare
« Songez que je n'ai jamais été malade. Je suis certaine de vivre très âgée. Et je ne suis pas sûre du tout, oh mais là, pas sûre du tout de mourir. »
Elle meurt pourtant, le 23 août 1948, à l'âge de 77 ans, dans sa maison de Gros-Rouvre. Elle est enterrée dans le cimetière du village, aux côtés de son mari, de son beau-frère et de sa belle-sœur. Merci à vous. Merci Véronique Elena.
Merci Jacques Fournier.